Heure, Vivre FM, c'est vous,
Jean-Baptiste Bergès.
Aujourd'hui dans Vivre FM, c'est vous, un nouveau témoignage de vie, un nouveau témoignage d'espoir. Mon invité a tout perdu à cause de l'alcool. Son travail, sa famille, son logement. Après de nombreuses batailles contre ses démons, il a réussi pourtant à stopper la boisson et à guérir de cette maladie. Et s'il a pu s'en sortir, c'est en partie grâce au baclofène. Aujourd'hui, il relance le débat autour de cette molécule controversée d'une aide précieuse dans l'arrêt des addictions. Christophe Biloré, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur l'antenne de Vivre FM. Nous sommes ravis de vous recevoir dans cette émission. Vivre FM, c'est vous. Christophe Biloré, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est bien pour redonner espoir à toutes les personnes qui sont concernées par l'alcoolisme, par cette maladie, car on parle bien de maladie ici. L'alcoolisme, c'est une maladie, c'est ce que vous pensez en tout cas.
Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est une maladie. C'est une maladie qui n'a pas toujours été considérée comme telle, mais je pense que en fonction de la manière dont les choses avancent aujourd'hui, notamment au niveau médical, elle le sera de plus en plus.
De cette maladie, en tout cas, on peut en guérir. Vous en êtes la preuve, vous avez vaincu l'alcoolisme et votre combat contre l'alcoolisme, vous le racontez dans un ouvrage intime publié actuellement aux éditions des Arènes. Il s'intitule « Il y a toujours un après », un titre évocateur, « Il y a toujours un après l'alcoolisme ». Ça aussi, c'est un message d'espoir. Déjà, c'est le premier message d'espoir qu'on peut voir de votre livre.
Oui, c'est un message d'espoir pour toutes les personnes qui sont concernées par cette maladie. Et puis, je dirais que plus largement, c'est un message d'espoir par toutes les personnes qui sont concernées par des maladies graves à un moment ou à un autre dans leur vie. Il y a toujours un après, c'est quelque chose qui est important d'avoir en tête, toujours.
Comment vous avez trouvé la force d'écrire ce livre? C'est le premier livre, vous n'êtes pas habitué à écrire?
Non, c'est le premier livre que j'écris, oui.
On sait que l'alcoolisme a une mauvaise image dans notre société. C'est pas facile d'assumer son passé d'alcoolique lorsqu'on se reconstruit. Comment vous avez réussi à écrire? Quel a été l'élément déclencheur qui vous a incité à écrire ce livre?
Bah, écoutez, ça s'est fait un peu au hasard. C'était pas du tout un projet de départ. J'ai eu tout un itinéraire assez long avec l'alcool, suivi un certain nombre de thérapies dont je parlerai peut-être plus tard. Et lorsque j'ai pu enfin me traiter avec ce nouveau médicament, donc le baclofène, ma priorité était d'essayer de guérir et de me reconstruire le plus vite possible. Ce qui m'a poussé à vouloir écrire ce livre, c'est que à mesure que ma guérison s'affirmait de plus en plus, j'ai vu autour de moi naître, y compris dans un entourage assez proche, beaucoup de suspicions, beaucoup de doutes quant à la réalité de cette guérison. Et un peu plus avant, j'ai vu que ces doutes pouvaient parfois être liés, y compris par le milieu médical. Comme je serais amené à parler de ce qu'a été mon parcours, ça me semblait tout à fait aberrant. Et j'ai donc pris la décision d'écrire quelque chose.
C'est ce qui vous semblait aberrant, c'est justement ces soupçons.
Oui.
De gens, même de votre entourage, qui pensaient que vous n'étiez pas en train de guérir, c'est ça?
Oui, il y avait l'idée.
On vous croyait pas?
Il y avait l'idée sous-jacente qu'on ne guérissait pas avec un médicament, que ce n'est pas possible.
D'accord. Parce qu'il faut préciser aux auditeurs que ce que vous racontez dans le livre, c'est que si vous êtes guéri aujourd'hui, c'est grâce à l'aide précieuse du baclofène. Le baclofène, c'est une molécule assez controversée qui est utilisée pour guérir l'alcoolisme, mais qui n'est pas prescrite par le milieu médical. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est le baclofène?
Oui, alors exactement, je ne suis pas médecin. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une molécule qui existe depuis les années 70. Qui était utilisé dans des maladies neuropathiques, essentiellement pour soulager des contractures musculaires.
Au départ,
c'est son indication première, c'est l'indication pour laquelle il est utilisé depuis les années 70. Hein, donc ça fait quand même plus de 50 ans maintenant que ce médicament est utilisé. La découverte d'Olivier Ameisen, à qui il faut quand même rendre un hommage important, c'est d'avoir pu constater, suite à des études qu'il a pu lire dans différentes revues scientifiques, qu'avec un surdosage de ce médicament, on arrivait à la suppression du craving, de ce qu'il appelle le craving, qui pour l'alcoolique est cette envie irrépressible de boire. Donc il a fait une automédication, et il s'est auto-administré du baclofène, progressivement, à haute dose, jusqu'à arriver à sa propre guérison. Ensuite, il a essayé d'en faire partager tous les bienfaits à la communauté médicale et malheureusement, des soucis sont parvenus.
Oui, on en parlera en fin de cette émission, on lui rendra hommage évidemment. En tout cas, pour vous, le baclofène, ça vous a aidé sans le baclofène. Vous pensez que vous seriez guéri ou pas?
Écoutez, sans baclofène, je ne sais pas, moi l'alcoolisme c'est très difficile à dater, mais disons que j'ai passé 4 années dans l'enfer absolu de l'alcool. Donc, en termes de parcours de soins, j'ai à peu près tout fait. J'ai fait les cures de sevrage, j'ai fait plusieurs cures dites de post-cure, qui durent quand même plusieurs mois. J'ai fait les groupes d'entraide d'anciens buveurs. J'ai pris les différents médicaments qui existaient jusqu'alors sur le marché. Tout ça a été systématiquement un échec. Voilà. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Nous sommes très nombreux, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les gens qui prennent la décision d'un parcours de soins avant baclofène, 90% d'entre eux rechutent avant la fin de la première année d'abstinence. Donc c'est quand même des traitements qui ont une efficacité très, très, très minime.
D'accord. Parce que là, avec le baclofène, il n'y a pas de rechute. Vous n'avez pas rechuté.
A priori, il n'y a pas de rechute, sauf si on arrête le traitement.
Bien sûr, voilà. Parce que c'est un traitement à vie, enfin, régulièrement.
Pour l'instant, on pense que c'est un traitement à vie, mais les études sont en cours.
Christophe Villoré, on va continuer de parler de tout ça. Si vous le voulez bien, on va revenir un peu à votre histoire. Il est important de préciser déjà, parce qu'il y a plein d'idées reçues sur l'alcoolisme. Il est important de préciser qu'on ne devient pas alcoolique du jour au lendemain. L'alcoolisme s'installe au fur et à mesure. Surtout que l'alcoolisme nous concerne tous. En France, ça fait partie un peu de notre savoir-vivre, de nos traditions, etc. Vous, quel est votre premier souvenir avec l'alcool ?
Souvenir désagréable, vous voulez dire ou...
La première fois que vous avez bu.
Alors, la première fois que j'ai bu, exactement, je ne pourrais pas vous le dire, mais je suis quelqu'un qui a bu assez tard. En fait, j'ai dû commencer à boire mon premier verre de vin vers 18 ans, 19 ans, quoi.
Voilà. D'accord. Mais comme ça, pour essayer...
L'occasion d'un anniversaire, l'occasion. Probablement, ou d'un jour de l'an, je ne sais pas.
Vous racontez dans votre livre, vous avez commencé par boire modérément vers 19 ans, assez régulièrement vers 32 ans, trop vers 40 ans, abusivement vers 43 ans.
Tout à fait.
Comment vous expliquez cette augmentation de l'alcool ? Qu'est-ce qui a fait dans votre vie qu'à un moment donné, vous êtes mis à boire davantage ?
Alors, là, ça demande un travail d'introspection qui n'est pas toujours très facile à faire. Enfin, c'est-à-dire, pas facile. Il est facile à faire, mais on n'y voit pas toujours très clair. Disons que je peux dire qu'en termes de personnalité, je suis une personnalité qui est plutôt... j'ai toujours été plutôt timide, très timide, plutôt plus timide que la moyenne. Et cette timidité s'accompagnait probablement d'une forme d'anxiété... dès que je me retrouvais dans des situations sociales où on était plusieurs. Voilà. Cet état de fait, je l'ai constaté progressivement, évidemment beaucoup moins lorsque j'étais à l'université, un peu plus quand j'ai commencé à travailler, à rentrer dans le monde du travail, et encore plus quand j'ai progressé dans ce monde du travail. Donc voilà, ensuite j'ai rencontré une femme, je me suis marié, j'ai eu des enfants. Enfin bon, j'ai eu la vie à peu près d'une vie lambda, à peu près celle de tout le monde, avec différentes formes de charge, de plaisir, et je dirais que cette anxiété m'a peut-être amené à boire de plus en plus régulièrement. Voilà, comment je pourrais le définir aujourd'hui en tout cas.
Mais on est d'accord que ça arrive au fur et à mesure, on ne se rend pas compte. À quel moment vous vous êtes rendu compte que vous étiez vraiment tombé dans un engrenage et qu'il était peut-être temps de faire quelque chose? À quel moment?
Alors,
quand c'est trop tard, forcément.
L'alcool est quand même quelque chose de parfaitement bien intégré en France. Donc effectivement, on se pose la question assez tard. En tout cas, moi, je me la suis posée assez tardivement. En plus, je travaillais dans un milieu où l'alcool est plutôt présent. Donc voilà, c'est pas une question que je me suis posée vite. Disons que je me la suis posée quand j'ai commencé à voir que mes quantités... Bon, disons, pour dire les choses clairement... Au bout quand j'ai vu que je buvais pratiquement un litre tous les soirs, là, je me suis dit, j'ai un problème avec l'alcool. Mais je n'ai pas commencé à faire les démarches à ce moment-là. Mais là, je me suis dit, j'ai un problème avec l'alcool. Auparavant, je ne me posais pas la question.
Ouais, parce qu'il y a plusieurs étapes. Déjà, c'est pas évident de se dire qu'on a un problème avec l'alcool. De faire le juste milieu entre boire un peu et boire beaucoup. Déjà, c'est une étape à franchir personnelle de se dire, j'ai un problème.
Oui, tout à fait. C'est d'autant moins évident... pendant toute la période où la consommation d'alcool n'a absolument aucune incidence dans votre vie. Et cette période est très longue. Moi, j'ai consommé régulièrement de l'alcool sans que ça me pose la moindre entrave, ni familiale, ni professionnelle, ni amicale, ni sociale. Donc pendant toute cette période, Si vous vous référez aux normes de l'OMS, vous êtes déjà alcoolique, vous buvez beaucoup trop par rapport à ce que la santé voudrait, mais vous n'avez aucun indicateur qui vous alerte par rapport à ça. Même les gens autour de vous ne vous alertent pas, parce que qu'est-ce que vous faites ? Vous buvez 3-4 verres, 5 verres à chaque repas, un peu plus dans les fêtes, c'est tout.
Donc c'est à quel moment du coup qu'on prend les choses en main ? C'est lorsque l'alcool a des ravages dans notre vie privée ? C'est ce qui vous est arrivé, vous ?
Oui, alors moi ça s'est passé progressivement, c'est-à-dire comme quand je vous le disais, quand je me suis aperçu que je buvais quand même pratiquement une bouteille par jour, disons. Je n'avais pas encore de répercussions vraiment dans ma vie de tous les jours, donc j'ai commencé à me dire que j'avais un problème avec l'alcool. Mais j'ai commencé à me dire que j'allais pouvoir le régler seul, ce problème. Donc j'essayais de diminuer de temps en temps, de faire un jour sans, etc. Mais bon, tout ça, ça dure aussi des mois, même chez moi, ça a duré plusieurs années, et pour me rendre compte que je n'y arrivais pas. Et que non seulement je n'y arrivais pas, mais que pendant ce temps-là, la consommation continuait à augmenter. Et c'est quand effectivement les premiers signes, je dirais, d'interaction directe avec ma vie familiale, sociale, professionnelle ont commencé à apparaître, que je me suis dit qu'il allait falloir que je fasse quelque chose.
Justement, à ce moment-là, pendant cette période, est-ce que vos proches vous aident, vous soutiennent ? Est-ce que lorsqu'on est alcoolique, on peut trouver du soutien dans notre entourage ?
Alors, au niveau professionnel, on n'en parle pas quand même, parce que tant que ça ne se voit pas, on n'en parle pas, parce que c'est quand même une maladie qui est très mal vue.
Hein. Oui, c'est mal vu, il faut le dire. Ouais.
Donc là, on pourrait éventuellement recevoir de l'aide, mais nous-mêmes, on n'en parle pas. En tout cas, moi, je n'en ai jamais parlé. Au niveau familial, bon, après, ça dépend un peu des relations qu'on peut avoir avec sa famille. Moi, je dirais que j'en ai parlé essentiellement à ma femme à l'époque. Bien sûr, on a un soutien à ce moment-là, oui. La personne essaye de vous aider, on essaye de diminuer. Mais voilà, l'alcoolisme, ce n'est pas une maladie de la volonté. L'alcoolisme, c'est une maladie à part entière.
Oui, on dit souvent que c'est une maladie de la volonté. On dit souvent, c'est facile d'arrêter de boire, il suffit d'avoir un peu de volonté. C'est pas vrai.
Non, en fait, ce n'est pas vrai.
Vous dites que l'alcoolisme s'accompagne d'une désocialisation. Vous vous renfermez sur vous-même pendant ces 4 ans. Comment ça se passe ? Comment vous vivez cette étape ?
Alors écoutez, c'est une désocialisation qui prend forme là aussi petit à petit. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Les consommations d'alcool ont besoin d'être de plus en plus grandes. Avec ces consommations d'alcool de plus en plus grandes, vous avez également des premières répercussions physiques. Vous vous réveillez moins, vos journées sont moins actives, vous êtes plus lent. Donc il y a tout un tas de conséquences physiques qui commencent à intervenir. Par la suite, vous avez également la consommation en elle-même qui commence à prendre une place énorme dans votre vie. D'abord, vous passez une bonne partie de votre journée à vous dire comment vous allez lutter pour ne pas boire. Ensuite, une grosse partie de la journée à savoir comment vous allez faire pour trouver l'alcool dont vous allez avoir besoin. Donc finalement, l'alcool, qu'il soit bu ou non bu, finit par occuper quasiment toute votre journée. En
fait. Vous pensez qu'à ça. Du coup, il y a des répercussions dans votre travail, forcément. Vous avez perdu votre travail dans cette période-là ?
Alors, moi, j'avais monté une agence de graphisme. J'ai fini par fermer cette agence. Mais comme je voyais quand même au fur et à mesure que l'alcool prenait le pas sur ma possibilité de travail, j'ai progressivement de moi-même diminué l'activité, arrêté de relancer un certain nombre de clients. De toute façon, je n'étais plus en mesure physique et intellectuelle d'assumer la charge de travail qui était la mienne. On travaillait à 3 ou 4, donc il y avait un très gros volume de travail. C'était devenu impossible.
À cette période-là, vous saviez pourquoi vous buviez ou là, à ce moment-là, on ne se pose même plus la question et ça fait partie du quotidien ?
Non, là, ça fait partie du quotidien. Disons que je me rendais bien compte que je buvais pour essayer d'atténuer une anxiété qui était de plus en plus présente. Ça, je me rendais compte. Mais ce que j'essaye d'expliquer aussi dans ce livre, c'est que, et ça je l'ai partagé avec beaucoup de malades alcooliques, c'est qu'un alcoolique, quand il commence à boire son premier verre, il n'a pas l'intention, comme quand on se fait un shoot de drogue par exemple, de faire un grand voyage. Il a toujours l'intention de prendre un verre de vin ou un verre de bière, puis de s'arrêter juste pour calmer son anxiété. Le mécanisme qui se met en place, c'est qu'à un moment, il ne peut plus s'arrêter. Sa consommation ne peut plus s'arrêter. Et c'est ça qui est tout à fait stupéfiant en fait.
Et ça arrive progressivement, et pour s'en sortir de cet engrenage, c'est aussi progressif, comme toute addiction, il est compliqué d'arrêter du jour au lendemain. Le sevrage est un parcours du combattant, mais pas impossible, vous en êtes la preuve, Christophe Biloré. On va en parler dans la deuxième partie de cette émission, ne bougez pas.
Midi 13h, Vivre FM, c'est vous,
Jean-Baptiste Bergès.
Dans Vivre FM, c'est vous. Aujourd'hui, nous parlons de l'alcoolisme avec le témoignage de Christophe Biloré, qui a vaincu cette maladie et qui redonne espoir aujourd'hui à toutes les personnes concernées dans un livre publié aux éditions des Arènes. Son livre s'intitule « Il y a toujours un après ». Alors Christophe, l'arrêt de l'alcool n'est pas chose aisée. On va en parler dans cette deuxième partie d'émission. Vous racontez dans votre livre que vous avez essayé plusieurs fois et vous avez eu des rechutes. D'abord, à quel moment vous avez pris conscience qu'il fallait que vous fassiez aider? La première fois que vous avez demandé de l'aide?
Écoutez, la première fois où j'ai demandé de l'aide, c'est que je m'apercevais que je ne pouvais plus continuer à avoir une vie sociale, entre guillemets, normale. Je n'arrivais plus à travailler des journées entières. J'avais besoin de dormir plus tard le matin. J'avais du mal à accomplir un certain nombre de tâches quotidiennes. C'était devenu un handicap tellement quotidien dans ma vie de tous les jours que j'ai pris la décision d'aller chercher de l'aide.
Donc c'est vous qui avez demandé de l'aide, on ne vous a pas imposé. Parfois, on vous impose, l'entourage vous impose de sortir ça. Là, c'est vous.
Non, on a pu m'en parler, mais j'ai pris la décision vraiment volontairement d'aller chercher des gens dont c'était la spécialité.
De toute façon, dans ce genre de situation, il faut que ce soit un déclic aussi qui vienne de nous-mêmes.
Ah bah oui,
parce que si on vous l'impose, la réussite est moindre, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je pense. Alors là, pour le coup, bien sûr, il y a des différences énormes, mais ça ressemble à toutes les maladies. Et quand on se sent malade, il faut faire la démarche soi-même d'aller voir un médecin, sinon on ne guérit pas. Ça, c'est certain.
Alors vers qui on se tourne, justement, lorsqu'on veut sortir de l'alcoolisme, les médecins? Mais est-ce que on trouve de l'écoute facilement? Dans quelle structure? Expliquez-nous, vous, ce que vous avez fait.
Alors écoutez, moi j'ai été assez empirique, hein. En fait j'ai regardé un peu et je me suis renseigné sur savoir qui pouvait soigner l'alcoolisme. Moi, j'ai vu qu'il existait des services spécialisés en addictologie dans les hôpitaux. Je me suis un peu renseigné sur ces services et j'ai choisi celui qui m'a semblé le plus performant, le qui avait le plus de notoriété, voilà, tout simplement.
Donc là, on parle de cure, c'est ça? Plusieurs cures que vous avez effectuées?
Non, là, au départ, c'était pour le sevrage.
Au départ, c'est un sevrage. Alors, comment ça se déroule? Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment ça se déroule, cette période de sevrage?
Alors, la période de sevrage est une période qui dure entre 10 et 12 jours. Vous êtes hospitalisé. C'est une période donc où vous allez totalement cesser de boire du jour au lendemain. Vous avez une surveillance médicale parce que chez certaines personnes, l'arrêt brutal de la consommation d'alcool peut provoquer un certain nombre de désordres organiques. Donc on stabilise pendant une dizaine de jours cet arrêt d'alcool. Mais il est indiqué dès la prise en charge du sevrage que ça ne pourra pas suffire. Ce sevrage est, je dirais, la première démarche, la démarche préalable à un autre soin derrière qui peut prendre la forme soit d'une post-cure, soit d'une entraide, soit d'une psychothérapie, de différentes choses.
Cette période de sevrage, vous l'avez vécu comment?
Alors écoutez, moi je l'ai vécu de deux manières. Dans un premier temps, c'était un grand soulagement de trouver une structure. Je me suis dit, ah bon, bah voilà, il y a des gens qui s'occupent de ça, c'est formidable. J'y suis allé avec beaucoup d'espoir, puisque finalement, c'était la première fois que je faisais une démarche active pour me soigner. Et ensuite, je me suis trouvé dans une situation assez curieuse où je voyais que finalement, on n'avait pas grand-chose à me proposer à part d'être enfermé et de ne pas boire, quoi. Donc, ça m'a semblé assez rapidement limité comme solution, voilà.
C'était pas pour vous une solution adéquate?
J'ai très vite senti que le jour où j'allais sortir, il faut savoir quand même que dans la vie de tous les jours, les sollicitations directes ou indirectes par rapport à l'alcool, elles sont omniprésentes. Il suffit de descendre chercher sa baguette, on croise trois cafés, enfin bon, voilà.
Du coup, on ne vous prépare pas forcément à retrouver une vie normale? Vous n'êtes pas suivi? Comment?
Pas pendant cette période de sevrage, mais je crois qu'elle n'est pas faite pour ça. Hein. Comme je le disais, la période de sevrage est vraiment faite pour arrêter la consommation d'alcool et doit engager un autre type de soin.
Donc après,
moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le choix d'une post-cure.
D'accord. Qui consiste à quoi ?
Alors, la post-cure, c'est un travail beaucoup plus long, là, pour le coup. Ces post-cures, elles varient entre un mois et demi et cinq mois. Hein. Donc, c'est des structures hospitalières dans lesquelles vous êtes reçu et dans lesquelles on va vous, justement, essayer de vous réapprendre à vivre sans alcool.
Voilà. Donc, c'est un suivi quotidien. Vous avez des rendez-vous avec des spécialistes, des psychologues?
Alors, le mieux, peut-être, c'est que je parle de j'en ai suivi trois, mais de la plus importante. La première, la plus importante que j'ai suivie, je suis arrivé dans une structure, donc j'ai été vu par un psychiatre addictologue qui gérait la clinique, qui m'a reçu, qui a pris un certain nombre d'informations. Et ensuite, on est pris en charge par une équipe, en réalité, qui est composé dans cette post-cure, qui a été composé d'anciens malades alcooliques ou en tout cas d'anciens malades d'addiction, qui avaient été soignés et qui avaient fait par la suite une formation en addictologie. L'ensemble de ces personnes formaient des ateliers et nous avions accès à ces ateliers auxquels nous participions toute la journée pendant les trois mois de cure.
D'accord. Voilà. Vous avez suivi combien de cures ? Trois, vous m'avez dit ?
Trois, oui.
Donc ça veut dire trois rechutes ?
Oui.
Comment vous expliquez ces rechutes ? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché, ces trois cures ? C'est ça, Biloré ?
Alors, je vais vous le dire pour ce qui me concerne. Je le répète, je l'ai dit en début d'émission, mais c'est important de savoir que ça n'a pas marché, pas uniquement pour moi, ça ne marche pas pour 90% de la population alcoolique.
Donc,
il faut le préciser. Pourquoi ça n'a pas marché, à mon avis, maintenant, avec le recul, je dirais que ça n'a pas marché parce que ce qu'on vous propose, c'est un reconditionnement complet de la vie. Et ce reconditionnement complet de la vie, certes, il intègre le fait qu'il n'y aura plus d'alcool, mais il intègre un certain nombre de facteurs qui sont extrêmement important, comme il y a un certain nombre de personnes que vous allez être amené à ne plus voir. Il y a un certain nombre de situations que vous allez être amené à ne plus faire. Il y a un certain nombre de, je dirais, pour être encore plus simple, d'itinéraires, tout simplement, que vous n'allez plus faire non plus, parce que vous savez que vous allez rencontrer tel café dans lequel vous aviez l'habitude d'aller, etc. Donc, un certain nombre de circuits, je dirais, dans la ville dans laquelle vous habitez, que vous ne prendrez plus. En gros, on vous demande pas simplement d'arrêter de boire, on vous demande de changer complètement votre vie de A à Z.
Parce qu'en fait, le reconditionnement équivaut à éviter toute tentation avec l'alcool, c'est ça ?
Exactement. Exactement, ça équivaut à vous demander d'éviter toute tentation avec l'alcool. Mais on vous apprend pendant cette cure de post-cure, justement, à identifier toutes ces situations où vous êtes amené à consommer de l'alcool. Donc ça, c'est un travail qui est assez facile à faire. D'une part, donc, vous allez quitter toutes ces situations. Il faut savoir que ces situations ne sont pas pathogènes en elles-mêmes. Parmi ces situations, il y a des gens où vous voyez des amis que vous avez depuis 15 ans. Il y a des fêtes de famille, il y a des fêtes d'amis, il y a des relations de travail et tout ça. Donc, c'est pas évident quand même de renoncer à tout ça d'un seul coup. Et ensuite, le problème, c'est que même si vous arrivez à le faire, et moi je suis arrivé pendant un certain temps à le faire, c'est que d'autres situations vont se présenter. Puisque, comme je le disais également en début d'émission, l'alcool est omniprésent dans notre
Bien
société.
Sûr. Donc en fait, vous êtes obligé de vous couper de tout aussi, c'est ça le risque ?
Le risque, c'est ça, oui.
Vous parlez aussi dans votre livre de l'association Les Alcooliques Anonymes. Ça, c'est une solution ? C'est quelque chose qui vous a aidé ?
Alors écoutez, ça a été une solution, non, parce que ça n'a pas marché. Mais en revanche, ça a été un de mes plus grands moments d'espoir, en fait. Parce que là, il y a quelque chose dont je n'ai pas beaucoup parlé auparavant, mais dans tout le circuit, je dirais, institutionnel du traitement de la maladie alcoolique, il y a quand même quelque chose qui est très désagréable, c'est qu'on vous renvoie sans cesse au fait que vous êtes responsable de votre maladie. Donc en fait, vous devez être le malade et votre propre médecin. Donc ça, c'est un peu désagréable.
C'est l'univers médical qui vous renvoie sans cesse ?
Oui, c'est l'univers médical qui, dans sa majorité, renvoie ça. Hein. Alors c'est vrai que quand on franchit la porte des Alcooliques Anonymes pour la première fois, on est un peu surpris par la bienveillance, la chaleur et l'accueil qui nous est fait. On est également surpris par l'absence de jugement sur la possibilité, par exemple, de venir à une séance et de ne pas avoir tenu, d'avoir bu un verre entre deux séances, etc. On sent que les gens ne sont pas là pour vous juger, mais qu'ils sont là pour vous accompagner dans un chemin qu'ils ont défini ensemble, selon une méthodologie, à quitter cet enfer de l'alcool. Et ça, c'est très précieux au départ, très précieux.
Au départ, mais c'est pas suffisant, apparemment.
Alors, c'est pas suffisant. Alors là aussi, c'est pareil, hein, il y a des gens qui réussissent à se guérir avec les alcooliques anonymes, d'ailleurs si ça existe depuis si longtemps. D'ailleurs, on peut dire que la seule alternative au baclofène aujourd'hui, c'était les alcooliques anonymes, parce que les médicaments existants contre l'alcool dans le milieu institutionnel n'ont jamais guéri personne, ça tout le monde le sait. Donc les seules personnes qui guérissaient des malades alcooliques aujourd'hui, c'était les associations d'anciens buveurs, oui, tout à fait. Oui. Maintenant, c'est un processus qui ne va pas forcément de soi.
Ne bougez pas, dans un instant, on parlera plus en détail du baclofène, parce que pour vous, dans votre situation, c'est ça qui vous a guéri, qui vous a permis de sortir de l'alcool. Christophe Bilauret, reste avec nous sur Vivre FM, dans un instant, la suite de cette émission.
Midi 13h, Vivre FM, c'est vous,
Jean-Baptiste Bergès.
C'est la suite de Vivre FM, c'est vous, avec notre invité aujourd'hui, Christophe Bilauret. Christophe Bilauret, qui a vaincu son alcoolisme grâce au baclofène. C'est ce que vous venez de nous dire, Christophe, et c'est ce que vous racontez dans votre livre, Il y a toujours un après, livre publié aux éditions des Arènes. Alors parlons de ce baclofène, qui pour vous a été très important dans votre chemin de vie. Est-ce que vous le considérez comme un produit miracle ?
Non, pas du tout. Et d'ailleurs, je trouve que ce terme a fait beaucoup de mal aux médicaments. Ce n'est pas un produit miracle, c'est le premier médicament qui est réellement efficace contre l'alcoolisme. Pardon. Donc, il est réellement efficace. Il ne l'est pas sur tout le monde, mais il l'est dans des proportions qui n'ont jamais été atteintes par aucun des autres médicaments. Donc, ce n'est pas une pilule miracle, c'est un médicament qui soigne aujourd'hui de nombreux malades, et mais surtout qui ouvre des perspectives qui jusque-là n'avaient jamais été explorées.
Lesquelles ?
L'identification de la cause neurobiologique de la maladie alcoolique. C'est-à-dire qu'on sait bien que la maladie alcoolique est une maladie plurifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a des dimensions psychologiques, il y a des dimensions sociologiques, il y a des dimensions neurobiologiques, mais les dimensions neurobiologiques n'avaient curieusement jusqu'à présent jamais été vraiment explorées.
Et donc là, la guérison par baclofène prouve qu'il y a un lien justement avec les dimensions neurobiologiques.
Ah, on sait exactement sur quoi agit le baclofène dans la maladie alcoolique. Oui, tout à fait. Il y a un dérèglement au niveau d'un neurotransmetteur dans la libération de la dopamine. Et ce dérèglement est corrigé par la prise du baclofène en surdosage et rétablit l'équilibre et supprime cette envie irrépressible de boire.
D'accord. Donc concrètement, avec le baclofène, vous n'avez plus envie de boire et vous pouvez, vous êtes plus tenté, quoi, c'est ça ?
C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'alcool continue à exister dans votre univers quotidien. Vous voyez toujours les mêmes cafés, vous allez toujours dans les mêmes restaurants, vous voyez toujours les mêmes gens qui boivent. Mais la présence d'alcool ne vous incite pas à boire, tout simplement.
Voilà, c'est la différence avec la méthode traditionnelle que vous nous expliquiez tout à l'heure. Christophe Bilauret, comment vous avez entendu parler de ce produit ? Ce produit qui n'est pas prescrit au quotidien par tous les médecins. Vous, comment vous avez entendu parler de ce produit-là ?
Bah écoutez, là je dois remercier la presse et les médias. En fait, c'est par la presse et les médias que j'en ai entendu parler. Je ne me souviens plus exactement en quelle année. Il y a eu plusieurs articles dans différents journaux hebdomadaires. Je suis tombé dessus. Évidemment, ça m'a intéressé. J'ai acheté le livre d'Olivier Amécène. Je l'ai lu. Et en le lisant, j'ai immédiatement compris qu'il y avait quelque chose de nouveau dans l'approche de la maladie, quoi. Voilà. Et donc après, j'ai cherché par tous les moyens à me faire soigner, et ça a été compliqué.
Donc le combat du docteur Amécène a été primordial pour vous. Cette médiatisation, ça vous a permis justement de connaître ce produit-là.
Ah oui, tout à fait. Sans cette médiatisation, je l'aurais probablement connu beaucoup plus tard. Et déjà, je l'ai connu tard, puisque moi, j'ai rencontré le baclofène en 2012. Or, la découverte de Amécène date de 2004 et son livre de 2008. Donc, déjà, pour moi, il y a un peu d'amertume d'avoir été obligé d'attendre si longtemps.
Alors, pourquoi personne ne voulait vous le prescrire ? Pourquoi les médecins ne veulent pas prescrire ce médicament ? Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu à nos auditeurs ?
Oui, alors écoutez, il y a des origines qui sont culturelles et historiques, hein, dont je parlais, c'est-à-dire que le malade alcoolique est souvent considéré comme le propre responsable de sa maladie. Ensuite, il y a une idée qui était partagée par la quasi-totalité des gens s'occupant des questions d'alcool, était que le seul traitement contre l'alcoolisme, c'était l'abstinence. Sauf que l'abstinence, c'est pas un traitement, c'est quelque chose, mais c'est pas un traitement. La troisième chose, c'est que toute l'infrastructure qui existe, qui est existante autour de la maladie alcoolique, et qui est énorme, hein, faut bien voir qu'elle est énorme, avec le baclofen, ne peut plus continuer à prétendre exister de la même manière. Donc, il y a des réticences qui se sont manifestées. La plus manifeste a été une réticence qui a voulu faire croire que le baclofen pouvait être le second médiator.
D'accord, oui, parce qu'on parlait d'effets secondaires et tout ça. Rien n'est prouvé là-dessus.
Alors, non seulement rien n'est prouvé, mais ça a été fait dans le cadre d'une totale mauvaise foi. Et ça je tiens à le dire, parce que c'est vraiment important. Le médiator est un médicament qui a été prescrit, dont on a connu très vite les effets dangereux, qui a même été interdit dans un certain nombre de pays d'Europe avant d'être interdit en France, et qui a donc été prescrit hors AAM, alors que les médecins ignoraient sa dangerosité parce que c'était caché par le laboratoire servi. C'est pas du tout le cas du baclofène. Le baclofène existe depuis les années 70. Il est prescrit de manière régulière sans qu'aucun danger n'ait été pointé. Et même dans le surdosage, il y a une étude dite de Smith qui date de 1991, c'est-à-dire avant que le baclofène arrive pour la question de l'alcool, qui montre qu'en surdosage, il n'y a aucune toxicité chez les malades atteints de maladies neuropathiques.
Pourtant, les médecins sont réticents à en prescrire. Vous-même, vous avez trouvé personne pour vous en prescrire. Racontez-nous un petit peu cette étape-là de votre vie. Comment ça s'est passé? Vers qui vous êtes tourné et comment vous avez réussi à en trouver et à réussir à vous en faire prescrire?
Bah, écoutez, au début, je cherche des médecins et je leur demande, tout simplement.
Et là, quelle est leur réaction?
Un certain nombre disent non, carrément. Je crois que la peur par rapport au médiator a été très opérante. Hein. Les médecins ont été paniqués par la possibilité de quelque chose comme ça. Hein. Certains disent non, d'autres disent oui, mais dans les limites du dosage communément admis pour la maladie neuropathique. Moi je me retrouve à naviguer entre ceux qui disent non, ceux qui acceptent mais qui s'arrêtent au bout d'un certain moment, qui pour moi n'a pas été suffisant. Et au bout d'un moment je tombe sur une association, on me fait connaître une association, je prends contact avec eux sur internet, et eux qui existent depuis 2008 ont eu le temps d'abord de former un portail internet à destination des malades, mais surtout d'organiser un réseau de médecins prescripteurs qui sont les pionniers dans le traitement de cette maladie et qui savent comment utiliser cette prescription. Et donc, ils m'ont renvoyé vers un médecin qui savait utiliser cette prescription.
Alors, comment s'appelle cette association?
Alors, c'est l'association AUBE.
D'accord. Il y en a une autre?
Oui, il y a une autre qui a été créée en 2010 qui également peut vous orienter vers des médecins qui connaissent ce type de prescription, qui s'appelle l'association Baclofen. Je précise qu'il est très important de se tourner vers ces associations car la prescription et la méthodologie de la prescription est essentielle dans ce traitement.
On précise que ce sont des associations légales parce que dans votre livre, vous dites que vous êtes traité presque clandestinement. Et là, c'est légal quand même.
Oui, non seulement c'est légal, mais elles vont être reconnues d'utilité publique. Hein.
D'accord, donc ça, il faut le préciser. Ouais. Alors, juste, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, le traitement on a évoqué tout à l'heure, c'est un traitement à vie pour l'instant, où vous êtes suivi régulièrement?
Oui, il n'y a pas de certitude, mais pour l'instant, c'est un traitement à vie, on est suivi régulièrement. Alors, le traitement est assez simple, on commence avec un petit dosage, moi j'ai commencé avec 20 mg, puis tous les 2-3 jours, on augmente de 10 mg. En augmentant comme ça, on va arriver pour chaque individu a son seuil à lui, à un seuil où on va constater l'arrêt du craving, c'est-à-dire l'arrêt de l'envie irrépressible de boire. On va stabiliser cette phase-là pendant plusieurs mois, et une fois qu'elle sera stabilisée, on va redescendre de la même manière progressivement le traitement jusque réapparaissent les premières envies à nouveau de boire. Là, on va remonter le traitement de 10 ou 20 mg et on aura atteint ce qu'on appelle la zone de confort, c'est-à-dire le traitement que vous êtes censé, au jour d'aujourd'hui, prendre à vie.
À quel moment vous êtes rendu compte, vous avez pris conscience que vous étiez guéri? Enfin, est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là?
Ah oui, je m'en souviens très précisément.
Racontez-nous alors.
Parce que si je réfute complètement l'idée de médicaments miracles, ce moment est magique. Ça, c'est... Alors, les choses sont un peu progressives, hein. C'est-à-dire que progressivement, au fur et à mesure de la montée, on s'aperçoit quand même qu'on boit moins. On boit toujours trop, mais on boit moins. Et on boit de moins en moins. Mais le jour de l'arrêt du craving, oui, c'est assez extraordinaire. Moi, ça s'est passé de la manière suivante. C'était ma consommation démarrait souvent en fin d'après-midi. Et un jour, j'ai ouvert une canette de bière, il devait être 18h, et à 23h, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas terminée. Ça devait faire 6-7 ans que ça ne m'était jamais arrivé. Je l'avais oublié. J'avais tout simplement oublié ma canette de bière. Et ce moment, je crois que lui, je ne l'oublierai jamais, quoi. Et ensuite, les choses se sont installées, et quelques jours plus tard, je me suis rendu compte que j'avais là carrément oublié de me servir un verre. Voilà. C'était tellement surprenant, parce qu'il faut savoir que quand on vit dans l'alcool depuis si longtemps, c'était tellement surprenant, les deux ou trois premières fois où ça m'est arrivé, que je suis allé automatiquement me servir un verre, tellement je trouvais incongru le fait de ne pas l'avoir fait. J'ai bu quelques gorgées, puis je l'ai reposé, parce qu'en fait, je n'avais pas envie.
Vous n'avez plus envie, ouais. Comment on se reconstruit après? Comment on arrive à se reconstruire après une étape comme ça, être sorti de l'alcoolisme?
Alors, je crois que, et ça c'est un des aspects vraiment très importants, je crois qu'il faut être accompagné. Hein, je conseillerais à tous les gens qui le souhaitent de se faire accompagner, car d'abord vous vous trouvez du jour au lendemain avec devant vous l'ensemble des dégâts qui ont été occasionnés par votre consommation alcoolique. Donc c'est pas facile à regarder en face.
Vous parlez de votre vie privée, votre vie sociale, c'est
voilà,
ça?
Voilà, tout à fait. Et ensuite, et c'est pas la moindre des choses non plus, vous vous retrouvez à nouveau avec des journées de 12 heures par jour qu'il faut occuper. Et ça, vous avez perdu l'habitude de le faire depuis des années. Donc, je conseillerais vivement, oui, de se faire accompagner. Moi, je reconnais, je ne l'avais pas fait pour ça, mais je reconnais que l'écriture de ce livre m'a énormément aidé, puisqu'il m'a permis d'avoir une activité qui m'occupait pendant une partie de la journée et de recommencer à développer mon activité ancienne, c'est-à-dire le graphisme.
Quand vous dites vous faire accompagner, c'est par un spécialiste, un psychologue par exemple, un psychanalyste,
oui.
Suivre une analyse,
c'est oui, suivre, enfin une analyse, je ne sais pas si ça doit être une analyse, mais en fait être accompagné au niveau psychologique, oui.
D'accord. Votre livre, justement, vous nous en parliez, il s'intitule « Il y a toujours un après », il est publié aux éditions Les Arènes. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez peut-être nous parler de votre entreprise? Vous avez repris une vie normale?
Oui, j'ai pris tout à fait une vie normale. Alors, je n'ai pas pris la décision de remonter une agence parce que finalement, ça avait été une expérience très enrichissante, mais assez lourde. Donc, je me suis réinscrit à la Maison des Artistes et j'exerce une activité de graphiste indépendant.
Très bien. Merci beaucoup d'être venu témoigner sur l'antenne de UFM, Christophe Biloré. Je rappelle votre livre « Il y a toujours un après » et c'est publié aux éditions Les Arènes. Et je le conseille à tous nos auditeurs. C'est un beau message d'espoir pour tout le monde. Merci beaucoup.
Merci à vous.